Des zèbres dans l'église. Un podcast à haut potentiel.
Et bonjour à chacun pour cette nouvel épisode avec Régis. Bonjour Régis.
Salut David et salut à tout le monde.
Bon, comment tu vas Régis?
Écoute, je vais, avec la grâce de Dieu, je vais bien.
Bon, tant mieux. Tant mieux, mais on sent derrière qu'avec la grâce de Dieu, quoi.
Avec la grâce de Dieu, ouais, il y a des petits soucis de santé, des petits soucis personnels, des choses, des préoccupations. Quand j'ai évoqué la théorie de Dabrowski dans une séance précédente, je suis retourné voir les schémas qui sont proposés et je me suis rendu compte que j'étais arrivé bien au bout de la partie où on part dans tous les sens à la recherche. Mais je suis encore tout à fait dans la partie qui monte pour essayer de vivre pleinement qui je suis. Et émotionnellement, c'est des fois difficile de savoir vers quoi on va et en même temps d'en avoir peur.
Je pense que cette question rejoindra pas mal de nos auditeurs. C'est pas notre thème du jour,
Ah, pas du tout.
mais c'était important d'en parler aussi. Et puis, du coup, ça me permet aussi de dire à nos auditeurs, si vous appréciez ce podcast, aussi, vous pouvez prendre le temps pour prier pour chacun de nos intervenants et pour moi-même d'ailleurs. C'est précieux et ça fait partie aussi de cette communauté qui est en train de se créer gentiment. C'est pas neutre ce qu'on fait. On n'est pas sur des sujets qui sont neutres. Vous le savez tous, vous en êtes tous conscients. Ne soyez pas que spectateur et que auditeur. Vous pouvez être acteur en participant, en posant des questions. Vous pouvez être acteur en postant vos réactions, vos sujets d'inquiétude, vos questions, etc. Mais vous pouvez aussi prendre du temps pour prier pour cette émission, prier pour chacun des personnes qui participent à la réalisation de ces émissions. Vous avez vu en ce moment, nos podcasts se sont un petit peu espacés. Nous manquons de temps. Nous manquons de temps. Mais on tient à continuer et on va continuer. On va essayer de rattraper le temps. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour nous. Mais on ne vous oublie pas et on compte bien continuer encore quelques mois pour commencer sur ces thématiques. Voilà, c'était la petite note et le petit encouragement pour chacun de nos auditeurs. Mais revenons à notre thème du jour. C'est vrai, Régis, et puis on vient encore de le voir, les sujets que l'on aborde posent des questions, voient des problématiques, et puis des fois on a besoin aussi de voir qu'il y a des bons côtés au fait d'être gifted, comme diraient les Américains, ou d'être des zèbres, comme diraient certains Français. Ça apporte quoi d'être un zèbre? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui parler des avantages qu'on ait d'avoir ce fonctionnement
Oui.
atypique.
C'est exactement le mot, des avantages, quels bénéfices pouvons-nous avoir? C'est ça. Parce qu'on parle des difficultés, c'est très à la mode. Parfois, on a l'impression que le fait d'être concerné par la douance ou d'être très émotif ou des choses comme ça, on a l'impression que bah, c'est des handicaps et puis que du coup, bah, il faut en parler un peu comme des maladies. J'ai suivi pas mal de débats sur le fait, quand on passe les tests, de dire j'ai été diagnostiqué HPI. Et la difficulté du mot, c'est que la plupart du temps, on pense au côté médical, et dans le monde médical, on diagnostique une maladie ou un trouble. Et avoir un haut potentiel, c'est pas être malade,
On est
c'est
d'accord.
fonctionner différemment. Alors, on a pu évoquer plusieurs fois comment s'adapter, comment vivre avec les autres. Et puis, j'ai relevé dans la liste des questions que tu m'avais envoyées cette remarque, mais quel avantage y a-t-il à être dans la douance? Alors, avant de parler des avantages, j'aimerais revenir sur un point tout bête, hein, mais les points sémantiques sont parfois très importants. On parle de haut potentiel. Et des potentiels, ça ne sert à rien si ce n'est pas développé. J'ai dans ma famille quelqu'un qui a un très très haut potentiel, qui a un QI au-delà de 145, et qui a le sentiment d'avoir échoué dans sa vie, d'avoir rien fait de ses capacités. Il l'a découvert alors qu'il était déjà père de famille. et qui m'a dit un jour, mais ça me sert à quoi d'avoir tous ces potentiels si je peux rien en faire? Mais on peut tous en faire quelque chose. La vraie question, je crois, c'est de savoir identifier les potentiels que Dieu m'a donnés et ce que je peux faire avec. Parce qu'il y a une difficulté pour savoir vers quoi aller, que pouvons-nous développer, c'est que parfois nous sommes frustrés de ne pas nous sentir bons dans tel ou tel domaine. La nature est ainsi faite qu'il y a toujours des équilibres qui se font. Et quand on est particulièrement doué pour certaines choses, eh ben, nécessairement pour d'autres choses, on va l'être beaucoup moins que la moyenne. Dans ma vie, j'ai dû admettre, là, récemment, j'ai fini par poser les bagages et admettre que je dois accepter le fait que je n'ai pas le sens pratique. J'y travaille depuis que je suis petit. J'ai voulu progresser, j'ai voulu être quelqu'un de bon. J'aurais voulu être bon en logistique, j'ai fait plein de bricolage. Alors, aussi pour des raisons financières, des fois, il faut savoir réparer. Je suis heureux de ce que j'ai pu développer, mais ça reste très petit par rapport à d'autres personnes qui ont des grandes capacités dans ces domaines-là. Mais j'aurais voulu. Et la vraie question, c'est de parfois simplement se placer devant le Seigneur dans la prière, regarder au fond de son cœur et dire, quelles sont les aspirations qui sont liées à des vrais potentiels en moi et qu'est-ce que je peux développer? C'est un petit peu, je le relis à la parabole des talents. Alors, pour bien rappeler, les talents, ce sont des pièces de monnaie, mais le même mot en français nous parle de nos savoir-faire. Donc, il y a une connexion qu'on fait parfois un peu trop vite, mais elle n'est pas totalement illégitime. Ce que dit Jésus dans cette parabole des talents, c'est qu'un maître confie à trois intendants une partie de ses biens en leur demandant de les développer. Et puis, chacun des deux premiers qui ont reçu passablement disent, voilà ce que j'ai fait fructifier, voilà ce que j'ai gagné en plus. Et le troisième dit, moi j'ai eu peur, j'ai enterré ce que tu m'as donné et je te le rends, voilà, j'en ai rien fait. Mais je n'ai pas perdu. Et je pense que cette parabole, elle est là pour nous parler de ce que nous sommes appelés à développer ce que nous avons reçu. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être professionnel. Ça peut être dans la vie familiale, mais la question, c'est d'en faire des vraies compétences. Ça peut même être dans l'Église ou dans le service de l'Évangile, parce que le service de l'Évangile ne se limite pas à l'Église locale. L'Église de Jésus-Christ, elle est très vaste. Je connais des gens qui font un travail humanitaire remarquable, parce qu'ils sont convaincus que c'est le Seigneur qui les envoie le faire. Et malheureusement, ils ne sont pas trop reconnus par leur Église locale. Je regrette parce que je pense que c'est aussi un ministère qui pourrait être reconnu, soutenu dans la prière. Mais quels sont mes potentiels? Où est-ce qu'on me dit que je suis trop? Les personnes, alors tu disais, il y a les zèbres, il y a les personnes gifted. Autrefois, chez les anglophones, on disait gifted. Et de plus en plus maintenant, on est en train de basculer vers l'idée de intense personality, donc une personnalité intense. Mais où est-ce qu'on me trouve trop excessif, débordant? Est-ce que j'ai trop de mémoire? Est-ce que j'ai trop d'empathie? Est-ce que j'ai trop de... Et je vais pas essayer d'entrer dans une liste parce que j'aurais peur d'enfermer à chacun de nous de voir. Où est-ce que nous sommes trop? Il y a certains surdoués qui ont un problème avec l'idée même de la douance, parce qu'ils pensent que les surdoués sont tous des intellos. Et ce n'est pas vrai. Il y a des surdoués en musique, il y a des surdoués avec une intelligence manuelle extraordinaire et un sens pratique, celui qui, moi, me fait défaut, mais chez d'autres qui est impressionnant. Et à nous de voir. L'intérêt pour nous-mêmes, c'est de nous sentir bien de nous épanouir dans les domaines qui sont faits pour nous. Et puis l'autre côté, c'est que en nous sentant bien dans ces domaines, nous pouvons aider. Nous pouvons aider notre famille, nous pouvons aider le groupe ou l'entreprise dans laquelle nous travaillons, nous pouvons aider l'église locale dans laquelle nous sommes. Et là, je profite un petit peu de pousser mon coup de gueule
Oui.
parce que j'ai un immense regret. La plupart d'entre nous sommes bénévoles dans l'église. Alors d'accord, ce n'est pas mon cas, je suis pasteur, mais l'immense majorité des chrétiens sont des bénévoles. Mais du coup, parce que c'est du bénévolat, on se contente de beaucoup d'amateurisme. Mais est-ce que je travaille pour ce Dieu qui m'a tellement aimé, qui m'a donné son Fils Jésus-Christ? Est-ce que je travaille pour ce Jésus qui est allé jusqu'à mourir, même mourir sur la croix, pour que je sois réconcilié avec Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui me semble important? Et est-ce que moi, ce que je donne dans l'Église, c'est à la mesure de cet amour et de tout ce que Dieu a accompli, à la mesure de sa grâce? Le problème, après, c'est que comme cette grâce, elle est infinie, bon, il faut savoir rester, nous, dans nos limites. Nous sommes des créatures, nous ne pouvons pas donner à l'infini parce qu'à ce moment-là, ça manquerait ailleurs. Si je donne à l'infini dans l'église, mon église va, mon, ma famille va en souffrir et pour ceux qui ont un travail à côté, mon travail va en souffrir aussi. Mais sachons peut-être faire moins de choses parce que l'église, c'est un lieu où il y a relativement peu de bénévoles souvent et du coup, ils portent 36 casquettes sur la tête. Sachons peut-être en faire un peu moins, mais ce que nous faisons, faisons-le avec autant de passion que si c'est notre activité professionnelle et une activité professionnelle que nous aimons. C'est clair que ceux qui n'aiment pas leur métier, ils ne pourront pas transposer ici. Mais si je fais une activité professionnelle qui me tient à cœur, est-ce que je ne peux pas, dans le temps que je peux consacrer au service de l'Évangile, mettre la même énergie, le même désir d'excellence et du coup développer mes potentiels dans ce domaine. Je pense à une petite ecclésiole évangélique que je connais pas loin de chez moi et il y a un jeune homme qui s'occupe de la technique. Honnêtement, il le fait bien et il s'est beaucoup investi dedans. Qu'est-ce qui se passe s'il part en vacances? Les cultes en streaming, il n'y en a plus. Les cultes enregistrés sur Internet, il n'y en a plus. La sono marche plus. En fait, il n'y a plus rien qui fonctionne s'il part en vacances. S'il est malade, la même chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres personnes qui aient des compétences techniques et qui puissent les investir dedans? Et en plus, si ces personnes sont des personnes à personnalité intense, des personnes qui ont des grands potentiels, elles vont pouvoir trouver des solutions pour que ça marche le mieux possible. Si vous êtes avec du haut potentiel artistique, alors regardez un petit peu le décalage qui existe entre nos moments de louange en église et tout ce qu'on peut trouver dans le domaine musical. Sans exiger, alors, parce que l'autre extrême de la demande de la qualité et de l'excellence, c'est que parfois nous devenons beaucoup trop sévères comme juges, beaucoup trop exigeants vis-à-vis des autres. Et si on commence par être exigeant vis-à-vis de soi-même, peut-être qu'on peut avoir de la compassion même pour ceux qui essayent de s'investir et qui n'arrivent pas très loin. Mais parfois, ce que nous mettons sur Internet donne de nos églises une image qui n'est pas flatteuse. Si on veut être conducteur de louanges, prendre des cours de chant, c'est pas une mauvaise idée. Et si on a des potentiels pour ça, ça va devenir extraordinaire. On peut même essayer de voir si éventuellement, si on n'a pas les moyens financiers, la solidarité de l'église locale peut nous aider. Mais faire progresser nos potentiels, c'est très important. Si on est très doué pour tel ou tel instrument, eh bien, on peut travailler, on peut apprendre on peut développer. Si on a le cœur qui saigne chaque fois qu'on entend dans un moment de prière libre des personnes exprimer leur souffrance, on peut se dire qu'on a reçu de Dieu une empathie particulière. Et que cette empathie, on peut la mettre au service, mais pas n'importe comment. Faire de la relation d'aide, ça demande de se former. Et ça demande d'abord de travailler sur soi. Je me souviens d'un professeur de médecine qui disait, on ne devient jamais soignant par hasard. En général, on devient soignant parce que soit on a eu besoin d'être soigné soi-même, soit on a eu quelqu'un proche de nous qui en a eu besoin et ça ne s'est pas nécessairement passé aussi bien qu'il aurait fallu. Et quand j'étais à la faculté de théologie à Vaux-sur-Seine, on avait pour la partie psychologie, psychanalyse, on avait un professeur de psychiatrie anglais et il nous avait donné cette remarque que j'ai toujours gardée. C'est en règle générale, on entre dans le ministère pour de mauvaises raisons et en cours de route, Dieu nous en donne des bonnes. En fait, ce qu'il appelait les mauvaises raisons, c'est qu'on entre dans le ministère non pas pour servir et répondre aux besoins des autres, mais parce que nous avons des besoins. Et c'est vrai partout. C'est quoi qu'on fasse dans l'Église, on va discerner des choses qui ne se passent pas merveilleusement bien. Et peut-être discerner aussi que nous pouvons être la réponse à ce besoin. Une épouse de pasteur baptiste en avait eu assez que son mari soit l'homme à tout faire dans l'église. Et elle lui avait dit, écoute, arrête de faire le ménage. C'est fini maintenant. Tu fais plein de choses. Tu fais les réparations, tu fais la peinture. Et puis à côté, tu fais les études bibliques, les réunions de prière et la prédication. Et parfois, tu t'occupes encore du groupe de jeunes. Mais arrête maintenant. Arrête au moins une chose. Je te demande d'arrêter le ménage. Et quelques semaines plus tard, une dame est entrée dans la salle de culte et a dit, mais c'est vraiment sale ici. Et c'est tout ce qu'attendait l'épouse de ce pasteur. Elle lui a dit, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, vous savez, l'armoire à balai, elle est ici, il y a tout ce qu'il faut dedans. Dans la semaine, cette dame a trouvé du temps. Elle est venue, elle a nettoyé, elle a trouvé d'autres personnes qui avaient le même sentiment qu'elle, elles se sont mises ensemble, elles ont trouvé des hommes qui ont bien voulu les rejoindre, qui n'étaient pas trop machos, et ils ont fait une équipe de ménage. Alors, je sais que je manie toujours cet argument avec prudence parce que c'est un petit peu le symbole qu'on utilise à la va-vite est comme si c'était le ministère bas de gamme. Ce n'est pas le cas du tout. Visiblement, là, c'était super important pour l'accueil. Et peut-être que cette personne, elle avait un haut potentiel dans ce domaine. C'est pour ça que j'essaye de limiter, que je parle plus de haut potentiel que de haut potentiel intellectuel, pour savoir bien faire à manger, bien nettoyer, bien faire des achats, pour savoir bien faire ce qu'on a à faire, il faut réfléchir. Il faut des capacités intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'on soit théoricien. Ça veut dire qu'il faut utiliser nos capacités, notre cerveau. Et pour être à l'écoute des autres, la même chose. Pour être à l'écoute de la parole également. Peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui se disent, non, mais si je me lance pour être pasteur, c'est parce que je vais être orgueilleux. Je me prends trop au sérieux. Vous avez une idée du nombre d'heures de travail que ça représente pour apprendre l'hébreu et le grec, pour pouvoir ensuite aller fouiller les Écritures, y trouver toutes les richesses qu'on peut amener dans l'Église par une prédication, par une étude biblique, par un enseignement des enfants ou du groupe de jeunes. Vous avez une idée du nombre d'heures que ça demande en même temps pour apprendre l'histoire de l'Église, l'histoire de la théologie, pour réfléchir comment se sont construites les doctrines chrétiennes. Et pourquoi dans notre union d'église, on est plutôt comme ça, et puis on a des frères et sœurs à côté, ils voient différemment. Et pourtant, ils utilisent la même Bible. Et ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Quels que soient nos potentiels, c'est important de les utiliser. Mais la question, c'était quel avantage on a à être surdoué. Le gros avantage qu'on a, c'est que ça nous permet de faire les choses à fond, de les faire bien, de les faire avec passion, avec toute cette passion, cette envie qui nous habite. Et en plus, le gros, gros avantage, c'est que on apporte cette satisfaction à d'autres de voir que ça a été bien fait. On apporte au groupe dans lequel on est, ça peut être une œuvre humanitaire, ça peut être une église locale, une mission, que sais-je, on apporte cette satisfaction de se dire tous ensemble qu'on peut être fier de ce qui a été fait et que c'est à la hauteur de notre amour pour le Seigneur. Après, je me souviens de quelqu'un qui me disait, moi, je suis très reconnaissant, mais jamais satisfait, parce qu'on peut toujours faire mieux. Bon, pourquoi pas? Du moment qu'on a la reconnaissance, c'est déjà drôlement important. Mais ne nous laissons pas piéger par une erreur. C'est le but de la douance n'est pas d'aller vers la facilité. Le but de la douance, c'est d'aller vers cette satisfaction, vers ce plaisir d'avoir pu apporter notre aide et d'avoir pu l'apporter avec des vraies compétences. Et puis parfois, c'est important de réaliser que tout simplement, nous ne voyons pas ce que nous pouvons apporter parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Je vais vous révéler un petit secret, c'est que je suis actuellement pasteur réformé au sein de l'Église protestante unie de France. Ce n'est pas là que j'ai commencé mon ministère. Et j'étais dans ma zone de confort et j'étais quand même. Tout n'allait pas bien, mais j'étais bien abrité dans mon cocon, là où je me trouvais. Et un jour, le Seigneur m'a poussé hors du nid et m'a dit, vas-y, ouvre tes ailes. Donc, j'ai essayé d'aller vers ce qui ressemblait le plus à là où j'étais. Et bien, par toute une série d'étapes, je me suis retrouvé en réalité à reprendre les études de théologie et à intégrer ce qui était à l'époque l'Église réformée de France. Mais ça a donné plein de choses étonnantes. Il y a eu une église qui m'avait envoyé un gros dossier, plus de 30 pages à remplir. Une union d'églises qui m'avait envoyé ça. Et le secrétaire de l'union d'églises avait rangé mon dossier sous la mauvaise pile de documents sur son bureau. Et donc mon dossier n'a jamais été traité. Et ils avaient très envie de m'avoir. J'avais eu un contact oral avec le président de cette union d'église. Mais non, je me suis retrouvé ailleurs. Et j'ai le bonheur d'être là où je suis et de me savoir utile. Mais si je m'étais laissé aller, je serais allé vers le plus facile. Alors, pour celles et ceux qui peuvent lire l'anglais, je voudrais recommander un livre. C'est un livre qui est écrit par Parker Palmer, alors Parker Palmer, pour l'entendre correctement. Ce livre s'appelle Let Your Life Speak et il a comme sous-titre Listening for the Voice of Vocation. Écoutez la voix de la vocation. Et le titre principal, Laissez votre vie parler, s'exprimer. Cet homme est un atypique, il n'est pas comme tout le monde, et il a essayé dans les églises où il est passé, dans les facultés de théologie où il est passé comme professeur, il a essayé d'être comme tout le monde. Et le Seigneur l'a amené progressivement, petit à petit, à devenir, comment dire ça, un formateur qui va dans les églises locales et qui permet à des personnes qui n'iraient jamais dans une faculté de théologie de se former, à des personnes qui n'iraient pas chercher ce genre de formation dans une étude biblique non plus dans une église, il a une activité autrement. Moi, le Seigneur m'a sorti de ma zone de confort intellectuel et spirituel, et c'est quand je me suis retrouvé loin de mes origines que tout s'est développé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire quittez votre église, partez tout, Abraham est parti sans savoir où il allait. Non, écoutez. Écoutez le Seigneur dans votre cœur. Demandez-lui d'être guidé dans la prière. Prenez le temps. Ne vous dites pas que vous devez décider dans l'urgence, parce que l'urgence, généralement, elle nous empêche d'écouter notre cœur. N'hésitez pas à poser des questions à votre entourage. Parce que ceux qui vous connaissent le mieux ont peut-être déjà repéré des domaines où vous vous exercez, où vous vous fatiguez pour rien, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas doué pour ça, et d'autres domaines où vous seriez super bon et où vous ne vous investissez pas. Alors, on a des potentiels très divers, chacun les nôtres, et je crois que le gros avantage qu'on a dans l'Église, c'est qu'on peut les mettre au service du Seigneur et de l'Évangile. Et qu'on peut en être heureux. J'ai parlé de fierté, c'est vrai. Même l'apôtre Paul nous appelle à être fiers. Pas tellement fiers de qui nous sommes, mais fiers de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Maintenant, osons aussi, osons nous lancer dans des choses qui vont nous rendre heureux. Un jour, j'ai demandé à une dame d'arrêter de s'occuper des enfants dans l'église locale dont j'étais le pasteur. Elle le faisait avec amertume, elle le faisait à regret. Elle a trouvé autre chose et elle a pu être heureuse dans cette autre chose. Ça ne sert à rien de nous contraindre à faire quelque chose comme bouche-trou parce qu'on se dit il n'y a personne pour le faire et ça nous rend malheureux. Le Seigneur nous appelle au contraire à entrer dans cette joie du service. Trouver là où vous pourrez vous épanouir et à ce moment-là, quand vous serez dedans, pensez à écouter ceux qui vous disent Eh oh, on est toujours là. Et ta passion, c'est super bien, on est heureux que tu sois heureux, mais n'oublie pas que tu peux aussi te donner du temps ailleurs, ne fais pas que ça. Ça, c'est l'équilibre à trouver. Mais à ce moment-là, le gros avantage d'être une personnalité intense, d'être dans la douance, d'être hypersensible, c'est que Dieu peut s'en servir pour le bien des autres et pour notre bonheur de le voir se servir de nous.
Eh bien, je te remercie, Régis.
Je t'en prie.
J'imagine qu'il y en a à qui ça pose des questions, qui ne savent pas comment gérer ces questions. On ne l'a jamais dit officiellement, mais Régis et d'autres sont disponibles pour prendre du temps. On peut être disponible pour juste un petit rendez-vous une fois, et puis Régis, comme d'autres, font de l'accompagnement, acceptent depuis quelques mois d'accompagner certains dans des transitions de vie, dans des difficultés un peu plus longues, qui demandent un peu plus d'accompagnement. Et donc, c'est vrai que j'ai jamais pensé à en parler, peut-être par humilité, mais s'il y en a qui ont envie, eh ben, ils peuvent nous envoyer un mail et puis on peut les rediriger vers l'un ou l'autre en fonction du profil pour pouvoir être accompagné, si nécessaire et si besoin. Je sais pas ce que tu en penses, Régis.
Ah, je pense que c'est une très bonne idée. J'ai dit plein de fois, n'hésitez pas à vous faire aider. Et oui, nous sommes plusieurs à intervenir dans ce podcast et à être disponibles, tout à fait, de façon ponctuelle ou sur un mode plus régulier. J'ai effectivement eu des demandes pour des accompagnements réguliers et pour moi, c'est parfaitement OK. Je le fais volontiers. Je trouve mon équilibre avec le secours de Dieu et de mon épouse. Je trouve mon équilibre et puis voilà, ça se passe bien.
Bon, tant mieux. Eh ben, la balle est dans votre camp. N'hésitez pas. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets, si vous avez des réactions. Et puis aussi, n'hésitez pas à penser à nous, à prier pour nous, qu'on puisse
Oui.
continuer cette petite œuvre qui, je crois, a son importance. En tout cas, si ça a de l'importance pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. Ça fait du bien aussi à ceux qui préparent ces émissions d'avoir des retours. Ça les encourage parce qu'en fait, on a l'impression qu'on parle dans le vide parce que c'est pas comme quand on est devant une assemblée où on partage et puis on a des retours directs. Là, il n'y a pas beaucoup de retours directs. On a choisi le format podcast qui permet d'avoir une grande liberté mais qui ne permet pas les retours tout le temps. Et je pense que certains ont besoin de. Enfin, en tout cas, je sais que certains, ça leur ferait du bien d'avoir des retours. Donc, n'hésitez pas à dire si ça vous a permis d'avancer dans certains points de votre vie. Ça bénira aussi l'équipe qui travaille derrière. Et puis, je suis sûr que ça nous permettra aussi d'enrichir notre réflexion pour pouvoir vous apporter de meilleurs contenus à l'avenir. Bon, eh bien, merci à chacun. Encore un grand merci à Régis. Et puis,
Avec plaisir.
à très bientôt.
À très bientôt et bon courage à tous.